La série de science-fiction américaine à succès Stranger Things, en moyenne près de 9 millions de personnes étaient devant leur écran à chaque épisode de la saison 2, débarquera sur la plateforme Netflix au mois de juillet pour une troisième saison et annonce déjà l'arrivée d'un nouveau monstre sous forme de menace brutale. Cette figure du monstre, on la retrouve dans l'imaginaire collectif et dans la fiction, notamment littéraire, depuis longtemps. Dès l'Antiquité, dans l'œuvre de la Divine Comédie, l'écrivain Dante représente le gardien de la porte des enfers sous forme de chien à trois têtes, le fameux Cerbère. Longtemps associé au mal et à la souffrance, avant dans l'histoire plus récente d'être capable de sympathie, le monstre est montré du doigt, du latin monstrare, car il s'écarte de la norme et n'est ni vraiment humain, ni pour autant un animal. Au XIXe siècle, une œuvre centrale permet d'illustrer la figure du monstre moderne comme objet de science, c'est Frankenstein de l'auteur Mary Shelley, où le monstre n'a d'ailleurs pas de nom si ce n'est celui de son créateur. Dans la littérature, au cinéma et maintenant dans les séries, le monstre est omniprésent, d'abord pour effrayer petits et grands, mais également avec d'autres missions, notamment définir ce que c'est d'être humain. L'arrivée des technologies numériques transforme la nature des monstres, avec l'apparition de clones, cyborgs et androïdes, et certains êtres humains se révèlent être eux-mêmes des monstres. Fini le monstre physique et bienvenue au monstre moral. Mais alors, qui peut bien se cacher derrière les coutures du monstre et que dit-il de nous, êtres humains ? Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invitée est Hélène Machinel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en langue et littératures anglaises et anglo-saxonnes à l'Université de Bretagne occidentale. Et l'une de vos dernières publications, entre autres, c'est Signatures du monstre, paru aux presses universitaires de Rennes en 2017 et que vous avez co-dirigé avec Jean-François Chasset et Myriam Marache-Gouraud. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, je vous laisse la parole.
Les monstres sont d'actualité. Le festival de la bande dessinée d'Angoulême vient de décerner le Fauve d'or, sa plus haute distinction, à l'américaine Émile Ferris pour son roman graphique intitulé « Moi ce que j'aime, c'est les monstres ». Et au cinéma en ce moment, on peut aussi voir « Border » du réalisateur danois Ali Abassi qui a décroché le prix Un certain regard au dernier festival de Cannes. Dans ce film « Border », on met en scène un homme et une femme au visage et au physique pour le moins ingrat, dérangeant, monstrueux. Hélène Machinel, vous êtes une familière des loups-garous, des vampires, des zombies, des robots et de ces nouveaux méchants qui hantent les séries télévisées et les films. Pourquoi avez-vous choisi les monstres comme sujet d'étude ?
Alors, les monstres sont un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, puisque je suis au départ spécialiste de littérature fantastique du 19e siècle, et que dans cette littérature-là, on rencontre énormément de monstres. Et puis, par ailleurs, c'est un projet qui permettait de fédérer des intérêts communs, en particulier avec des collègues de l'Université du Québec à Montréal, et en particulier Jean-François Chasset. Et l'autre aspect qui était intéressant pour nous, c'est que ça nous permettait également de croiser des approches ancrées dans différentes périodes temporelles, donc avec Myriam Marache-Gouraud également, qui elle est spécialiste du XVIe siècle. Donc toute cette synergie-là a produit l'ouvrage que nous avons proposé au PUR et qui était issu d'un colloque en fait au départ.
Qu'est-ce qu'un monstre, tout compte fait ?
Alors, le monstre est toujours assez complexe à définir et il me semble que ce qui est intéressant dans ce qu'on a essayé de proposer, c'est une définition ou une approche du monstre qui se construirait surtout par le regard et par la mise en perspective ou la mise en réflexion d'une altérité qui s'oppose toujours à une forme d'identité, en fait.
Dans votre livre, vous dites « le monstre n'existe que dans le regard de l'autre ». Vous citez Pierre Ancet qui dit « Et monstre ce que l'on montre du doigt, faute de pouvoir compter sur le langage, soudain mis en échec par cette aventure improbable du regard ». Est-ce que vous pouvez nous préciser ça et dire comment le regard sur le monstre a évolué, et donner des exemples bien sûr, et a évolué au fil des siècles ?
Alors il y a deux aspects dans ce que vous me demandez. Il y a l'évolution au fil des siècles et il y a la question du regard. En fait, la question du regard, comme on a essayé de l'expliquer dans l'introduction à l'ouvrage, c'est vraiment un moment charnière qui se met en place au début du XVIIIe siècle, avec en particulier le roman de Mary Shelley, Frankenstein.
Extrait du film Frankenstein de James Whale, sorti en 1931, film d'horreur emblématique inspiré de l'œuvre de Mary Shelley.
On a là pour la première fois une perception du monstrueux qui passe par le regard, c'est-à-dire que c'est au moment où le monstre ouvre les yeux sur son créateur et où il y a cet échange de regard entre le créateur et la créature que la notion de monstruosité apparaît. Et ça, c'est un aspect intéressant, mais qui est vraiment ancré dans une période spécifique, alors que le monstrueux en amont de cette période-là se décline de façon souvent très diverse en fonction des périodes, puisqu'au départ, par exemple, le monstrum de la période de l'Antiquité n'est pas forcément du tout quelque chose de repoussant
qui représente
l'altérité. Au départ, le monstre, ça peut être une forme de révélation divine ou un élément qui est proposé par le divin comme une sorte de garde-fou à la norme à l'époque. Et puis ensuite, c'est ce type d'approche a évolué, bien entendu, et on est devenu, en particulier à la période contemporaine, je pense, beaucoup moins souple qu'on pouvait l'être à l'Antiquité.
On va y revenir, Christian Lebar.
Alors, est-ce qu'on peut faire historiquement un lien entre l'humanisme et l'image du monstre? C'est-à-dire, au fond, le monstre, c'est un peu le point limite qu'on a besoin de penser, de voir, pour en creux définir l'espèce humaine, quoi. Au fond, l'humanité, la condition humaine suppose de se penser aussi à partir de jusqu'à ses frontières, et du coup, il y aurait comme ça une nécessité de dire ça, c'est encore de l'humain et ça n'en est plus.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le paradoxe, d'une certaine façon, du monstre et du monstrueux, c'est qu'il permet
de
définir
de
en creux une norme.
Donc,
une norme après dont on peut discuter la définition, parce que ça peut être une norme sociale, une norme religieuse, enfin il y a différents types de normes, mais je pense que l'idée c'est ça au départ, c'est-à-dire une définition en creux de l'humain.
D'accord, et alors comment s'agence, parce qu'au fond dans Monstre il y a deux choses, il y a d'abord, il y a beaucoup de choses liées à l'apparence, le monstre c'est ce qui suscite l'effroi, c'est-à-dire c'est d'abord une question de regard, donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à comment l'entité monstrueuse se donne à voir à nous. Mais il y a aussi des disqualifications d'ordre moral, il y a des normes aussi morales, d'ailleurs le monstre c'est le mal. Alors comment les deux s'agencent dans l'histoire?
Mais je pense que ça c'est la grande question de l'évolution lorsqu'on passe de la période de l'Antiquité à la période ensuite de la Renaissance. Et en fait, je pense aussi indirectement que c'est lié à l'essor du christianisme, c'est-à-dire à l'apparition d'un certain nombre de normes qui vont relever de normes religieuses, mais qui vont ensuite être imposées, vont se propager, on va dire, dans la société. Oui, voilà.
Revenons un petit peu. Le monstre physique, il ressemble à quoi? Donnez des exemples.
À quelle période? Parce que ça dépend. Enfin, il y a différents types de monstruosité en fonction des périodes. Mais a priori, c'est tout ce qui transgresse la norme. Donc tout dépend des.
C'est quelqu'un qui mesure 2,50 m. C'est quelqu'un qui mesure, qui pèse 300 kg. C'est quoi?
Mais ça peut être plusieurs types de choses. Mais oui, ça peut être ce que vous proposez. Mais généralement, ça relève quand même plutôt de ce qu'évoquait Christian tout à l'heure, c'est-à-dire d'une forme de une apparence physique qui suscite l'effroi, qui relève de l'ineffable, de l'inassimilable, de ce qui sort de la norme et qui n'est pas assimilable en fait par cette norme.
Mais qui en même temps est assez proche de nous pour nous mettre mal à l'aise. Je pense à, aux travaux de Mary Douglas sur la souillure. Et ce que Mary Douglas dit, c'est que ce qui suscite la peur, c'est ce qui déjoue les catégories auxquelles on est habitué. C'est-à-dire, l'animal n'est pas un monstre. Le monstre commence à partir du moment où on a affaire à des créatures qui sont intermédiaires, qui empruntent à l'humanité et qui empruntent à autre chose que l'humanité. Alors peut-être qu'il y a une différence de ce point de vue-là, parce que quand on dit monstre marin, par exemple, bon, on évoque des choses qui n'ont, qui n'ont rien d'humain, mais il me semble qu'une des caractéristiques du monstre moderne, enfin, c'est peut-être cette hybridité, c'est-à-dire qu'on va trouver, y compris dans des séries contemporaines, du tueur en série qui est un bon père de famille ou des choses comme ça.
Oui, c'est cette notion d'hybridité et surtout de proximité entre identité et altérité. C'est-à-dire que le monstre présente toujours une forme d'altérité, mais il est d'autant plus menaçant que cette forme d'altérité est proche de l'identité. Mmh. Parce que, de toute façon, les figures du monstre permettent, à mon sens, toujours de repenser l'identité. Et l'identité, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à définir et qui fluctue aussi en fonction des époques et en fonction des perspectives. Donc, il y a cette dimension d'une hybridité entre identité et altérité qui peut servir à refonder l'identité par exclusion de l'altérité. Ça, c'est le processus de l'éviction du bouc émissaire, selon René Girard, qui est un processus connu, enfin, reconnu, disons, mais qui permet de refonder une communauté par l'identité en excluant l'autre. Et puis, il y a à la période contemporaine des phénomènes assez intéressants de persistance au sein d'une même entité, de ces deux dimensions, identité et altérité. Et là, on retrouve effectivement des figures monstrueuses contemporaines de ce qu'on a appelé les nouveaux méchants, donc qui ont une apparence extrêmement normale, normalisée, qui relève d'une identité que tout le monde peut reconnaître, comme effectivement des tueurs en série qui ont une apparence de père de famille, comme dans la série The Fall, ou dans la série Hannibal avec le psychiatre, qui a priori n'est pas quelqu'un qui relève du monstrueux, et qui en même temps ont une facette qui relève de l'altérité. Et c'est cette proximité entre les deux facettes qu'on retrouve aussi dans la série Dexter, par exemple, enfin, c'est exactement le même principe, qui suscite l'effroi et un sentiment peut-être encore un peu plus glaçant que celui que pouvait déclencher le monstre qui avait une apparence de monstre.
Donnez des exemples, s'il vous plaît.
Dans le roman de Mary Shelley, effectivement, si on remonte un petit peu à ce roman fondateur, la créature a une apparence repoussante. La première réaction de toutes les personnes qui le voient, c'est le dégoût, c'est le rejet. Ouais. Et c'est au moment où lui se voit, d'ailleurs.
Et cette créature, elle ressemble à quoi ? Parce que là, vous ne la décrivez pas.
C'est difficile. C'est une créature qui est composée à partir de morceaux de cadavres. Donc, a priori, on ne la pense pas extrêmement belle et sexy. Et d'autre part, ce qui est intéressant dans ce roman-là, c'est que c'est aussi au moment où la créature voit son propre reflet qu'elle comprend sa dimension monstrueuse. Donc ça, c'est aussi assez intéressant parce que, en tant qu'être conscient, la créature, au départ, chez Mary Shelley, n'a absolument pas conscience de sa monstruosité. Elle ne la comprend que quand elle la voit dans un miroir, bien qu'elle l'ait vue précédemment dans le regard des autres, elle n'a pas encore compris que c'était cette apparence physique qui suscitait le rejet.
Et pour ceux qui, comme moi, n'ont pas lu le roman et ne connaissent pas trop d'ailleurs les films qui ont été faits à partir de là, est-ce que cette monstruosité, est-ce que dans le personnage de Frankenstein, il y a au fil de la narration, il y a un peu d'humanité qui surgit, ou est-ce qu'on est vraiment dans le mal absolu ou...
Le Victor Frankenstein, le créateur du monstre, d'une certaine façon, reste sur la même ligne tout au long du roman. Il n'arrivera à aucun moment à réellement percevoir l'humanité de la créature.
D'accord.
En revanche, ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est que c'est un roman qui montre comment l'accès à la conscience s'opère dans un être, sans aucune inscription dans un héritage, une transmission, une filiation, puisque son créateur le rejette, au point qu'il n'a même pas d'identité, il n'a pas de nom. La créature de Frankenstein, c'est pour ça que d'ailleurs on confond souvent nom du créateur et la créature.
Ce que je viens de faire d'ailleurs.
Oui, c'est jamais pas souligné, mais effectivement, qui est en fait intéressant aussi de ce point de vue-là. Le roman est très intéressant pour ça. C'est un roman philosophique, plus qu'un roman de science-fiction, bien qu'on l'ait considéré comme étant à l'origine de la science-fiction. C'est plus un roman philosophique sur la nature de l'humain, justement, et ce qui constitue un être humain.
Est-ce que dans votre livre Signature de monstre, vous dites ou l'un de vos collègues que le monstre est toujours un être de souffrance et de douleur. Est-ce que ça c'est vrai ou il y a des exemples de monstres joyeux?
Oui, alors, je ne crois pas, mais je ne voudrais pas affirmer sans avoir vraiment recherché ça de façon exhaustive. Il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup, a priori, d'exemples de monstres joyeux. Le monstre est effectivement souvent une créature de souffrance, parce que souvent...
Par le regard de l'autre.
Oui, par le regard de l'autre, humains. Absolument. Et parce que souvent, lorsque ces créatures-là apparaissent dans la fiction, il y a une visée critique. Sur la société qui crée ce type de comportement. Donc, a priori, effectivement, le message étant a priori plutôt critique, le monstre est rarement une créature de bien-être. Oui.
Ouais, juste là-dessus, je viens de revoir La Mouche de Cronenberg, là. C'est intéressant parce que, donc, hybride homme-mouche. Et donc, effectivement, ça finit de façon tragique. Il demande à la jeune femme de le tuer, etc. Mais il y a un moment d'euphorie dans le film. C'est-à-dire, il y a un moment où il est très heureux d'avoir la double nature, en quelque sorte, de pouvoir quasiment voler, etc. Donc, il y a un moment où il a l'illusion de s'accomplir complètement sous une forme de dépasser la condition humaine au sens très positif. Et puis, en fait, c'est le regard de l'autre qui fait que l'expérience de la solitude et de la détresse, il ne peut avoir de relation avec personne, et donc du coup il sombre dans le chagrin.
Oui, mais c'est vrai que Cronenberg est fascinant pour ça. Enfin, la plupart de ses films explorent justement des dimensions qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir explorer dans ces contextes-là. Je pense aussi à Existence, dans le même type, qui est un autre film de Cronenberg, mais qui explore la connexion à la technologie, mais par des biais qui diffèrent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films ou dans les séries ou dans les ouvrages contemporains. Donc je pense qu'il a une sensibilité sans doute au décalage aussi, Cronenberg, qui est particulièrement intéressante.
Quand vous parliez tout à l'heure du regard, autre exemple et dans l'histoire, les monstres, je mets des guillemets, ont été montrés dans des cours royales, ont été montrés au 19e dans des foires, dans des expositions universelles, etc. Et ont beaucoup souffert de ce regard, de ce mépris. On est considéré comme... les gens étaient considérés comme des animaux, comme des...
Ça, c'est le 19e, oui.
Ça, c'est le 19e.
Je peux surtout parler pour l'ère anglo-saxonne, mais je pense que Christian serait sans doute d'accord avec moi pour dire qu'on retrouve le même type de phénomène en France. Mais la période du 19e siècle, en Angleterre en particulier, c'est une période au cours de laquelle la société britannique est extrêmement compartimentée. Donc toute la pensée intersectionnelle, toutes les divisions entre les blancs, les gens de couleur, les hommes, les femmes, les pauvres, les riches, enfin, c'est vraiment une des sociétés les plus divisées qui soit, je pense, au cours des siècles, hein, qui du coup, je pense, propose un terreau particulièrement fertile pour des représentations du monstrueux. Parce que là, le monstrueux représente vraiment tout ce qu'on va stigmatiser comme étant l'altérité du criminel à la femme hystérique, en passant par d'autres exemples qui sont vraiment typiques de la période.
Donc, fond de colonisation.
Sur fond de colonisation, bien entendu. Donc les monstres, que ce soit dans les expositions universelles, ou que ce soit dans les freak shows de l'Angleterre victorienne, c'est quelque chose qui cadre exactement en fait avec la pensée stigmatisante de l'époque et qui en plus est extrêmement morale et religieuse.
C'était Nénuphar, un joyeux lascar, pour être élégant, c'est au pied qu'il mettait ses gants. Nénuphar.
Malgré la volonté affichée par les officiels de ne plus stigmatiser les indigènes, les chansons populaires et surtout la mésaventure survenue à un groupe de Kanaks prouvent que le public reste avide de stéréotypes dégradants. Convaincus de participer à l'exposition pour représenter la Nouvelle-Calédonie, une centaine de Kanaks se retrouvent en fait déguisés et obligés de jouer les cannibales au jardin d'acclimatation de Paris.
Vous venez d'entendre un extrait du documentaire Zoo Humain, diffusé sur Arte en 2002.
Ce que vous rappelez dans le livre, c'est que le Joseph Merrick de Elephant Man de David Lynch a existé.
Absolument. C'est vrai. Oui, absolument. Et dans ces freak shows de l'époque, on a des témoignages, on a des éléments qui nous permettent de savoir qu'effectivement, il y a eu des êtres humains qui ont été montrés, exposés à la manière dont lui l'a été. Hein. Donc c'est particulièrement glaçant, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve aussi à la période période contemporaine dans une forme de retour de ce type de stigmatisation, en particulier intersectionnelle. Enfin, on retrouve ce type de réflexion à la période actuelle.
Et vous le trouvez dans la fiction, vous voulez dire ?
Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Dans la fiction et dans la société qui nous entoure. Oui. Donc, toutes les questions, comme on les traduit généralement de l'anglais, hein, d'origine ethnique, de classe et de genre, identité sexuelle.
Et donner des exemples de livres, de films, de peintures, de séries télévisées qui traitent de ça actuellement ?
Toute la question de l'altérité, on la retrouve dans la fiction contemporaine et dans les séries en particulier, autour de tous les exemples de séries de science-fiction qui mettent en scène des figures du monstrueux, en particulier via ce qu'on appelle le bricolage humain, c'est-à-dire l'homme augmenté, les biotechnologies et tout ce type de...
On y reviendra plus tard.
Voilà, oui. Ouais. Donc ça, c'est des exemples qu'on trouve beaucoup, mais il y a aussi, peut-être dans les exemples de séries qui travaille le mieux ces questions-là, on a des séries comme Orphan Black, où là c'est la question du clonage humain, donc qui est particulièrement intéressante parce que d'une certaine façon le monstre ne peut pas être plus similaire à l'entité humaine à partir de laquelle il est créé, parce que le clone c'est la réplication, enfin le dédoublement du même, donc c'est encore plus effrayant.
Christian. Alors, est-ce qu'on peut quand même pas dire, il y a quand même une différence historique, alors je parle pas sur le terrain de la fiction, mais sur le terrain de la réalité sociale, l'Angleterre victorienne qui exhibe les monstres, elle se caractérise quand même par une très grande arrogance identitaire, c'est-à-dire nous sommes la civilisation et tout ce qui n'est pas nous est monstrueux et on peut s'en moquer et voilà, il y a vraiment un lien entre arrogance et... mépris et méchanceté, quoi. Alors qu'il me semble que les figures du monstre aujourd'hui, alors c'est peut-être un peu naïf et optimiste de dire ça, mais les auteurs de fiction aiment à solliciter la figure du monstre pour nous inviter à nous interroger sur ce que nous sommes. C'est-à-dire ça participe, il me semble, d'une réflexivité identitaire sur qu'est-ce que c'est que l'humain, où est-ce que ça s'arrête. Et comme on disait tout à l'heure, souvent ça se termine par le monstre n'est pas celui qu'on croit. C'est-à-dire au fond, il y a parfois plus d'humanité du côté des plastiques que... Alors, on trouve ça dans Blade Runner. Je crois que l'un des auteurs du livre cite le formidable roman d'Ishiguro... oui, alors en français, je sais pas, auprès de moi. Auprès de moi toujours.
Oui,
voilà. Donc, il raconte l'histoire de clones qui sont du point de vue des clones. Voilà. Donc, il y a aussi un basculement de la subjectivité, c'est-à-dire les choses vont être racontées du point de vue des monstres et font apparaître l'être humain entre guillemets normal comme monstrueux. Donc, je crois qu'il y a une évolution historique là.
Oui. Alors, il y a deux choses là. Effectivement, on n'est pas exactement dans la même époque, mais on est quand même dans une époque de retour de certains types de pensées relativement rétrogrades et réactionnaires, sur des questions comme le mariage pour tous, l'homosexualité, etc. On peut pas dire qu'on soit vraiment dans la période la plus progressiste qui soit, en dépit de certaines évolutions hein, sur ces questions-là, mais il y a aussi tout un contre-courant, tout un mouvement qui va à l'encontre de ça. Dans la pensée contemporaine qui stigmatiserait l'autre, le migrant, comme on dit à l'heure actuelle, on retrouve quand même pas mal de choses quand on entend des chiffres que j'ai pu entendre récemment qui expliquent que 20% des individus sondés sur France Culture considèrent que à l'heure actuelle il y aurait un complot international pour remplacer les migrants, pour que les travailleurs français soient remplacés par des migrants. Bon, je ne sais pas si on est si éloigné que ça, ouais, de la pensée que pouvait avoir effectivement, enfin qu'on pouvait repérer dans le monde anglo-saxon au 19e.
Je ne vais surtout pas faire la vocabulaire, mais on peut être xénophobe sans monstrueux, sans considérer les migrants comme des monstres.
Non, bien sûr, mais ça participe encore de ce que je disais tout à l'heure, d'une pensée intersectionnelle, qui distingue entre soi et l'autre, mais qui stigmatise l'autre.
En même temps, sur les questions de genre, par exemple, des films comme Girl, comme Tomboy, etc., interrogent vraiment de façon intéressante des identités.
Bien sûr. Ah non, mais c'est certainement. Ou la série Sense8, qui montre justement une autre espèce que l'espèce des Homo sapiens, qui se serait développée en parallèle de l'espèce des Homo sapiens, et qui est aussi, bien sûr, fait l'objet d'une forme de stigmatisation dans la série, et qui en profite, cette série, pour justement revendiquer un dépassement des binarismes de race, d'identité sexuelle ou de classe. Donc, bien sûr, il y a tout un courant pouvait même pas penser, imaginable peut-être au XIXe siècle. Hein. Bien que ce soit toujours dans les sociétés les plus répressives qu'on voit apparaître des formes de création les plus subversives. Au XIXe, il y a aussi des romans qui remettent fondamentalement en question cette pensée segmentarisée du XIXe. Mais d'une certaine façon, moi je pense qu'on est dans une période, je suis peut-être un peu pessimiste, hein, mais on est dans une période où on retrouve une stigmatisation du pauvre, une stigmatisation de l'autre qui n'est pas si éloignée, avec des modalités différentes, hein, bien sûr, de ce qu'on avait au XIXe. Et pour revenir sur le roman d'Ishiguro Never Let Me Go, souviens-toi de moi, ou auprès de moi toujours.
Auprès de moi toujours, oui.
Qui est, à mon avis, une des fictions contemporaines les plus intéressantes sur ces questions-là. Parce que justement, le coup de maître d'Ishiguro dans ce roman, c'est de mettre le lecteur dans la position de découverte qui est celle du narrateur de sa propre identité. C'est-à-dire que dans ce roman, on n'a absolument aucune notion au début du roman de qui est le narrateur à la première personne qui s'adresse à nous. Or, dans toute narration à la première personne, enfin ça c'est quelque chose d'inévitable, dès qu'on est dans une narration à la première personne, le lecteur a tendance, et la lectrice, à s'identifier au narrateur, forcément. Et là, on va découvrir donc avec ce narrateur protagoniste qu'elle est en fait un clone produite pour fournir des pièces détachées à des êtres humains dans une société où, quand on a besoin d'un foie, ou quand on a besoin d'un cœur, ou quand on a besoin d'une rate, on va la prendre sur un clone jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire que généralement, au bout de ce qu'on appelle ironiquement des dons dans le roman, donc au bout de 4 ou 5 dons, les fonctions vitales, évidemment. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce roman, on a donc un processus d'enquête du personnage qui cherche à comprendre qui elle est, à la manière d'un détective, et qui va découvrir avec nous sa réelle nature, finalement, et la dimension monstrueuse de sa condition, mais qui en même temps apparaît pas du tout comme monstrueuse, puisqu'elle découvre qui elle est. Donc c'est aussi un processus d'autoconnaissance. Et c'est un roman particulièrement glaçant de ce point de vue-là.
Oui, parce que
je trouve.
Enfin, moi, je l'ai lu sans savoir que c'était un roman de science-fiction, et il a toutes les apparences sur les 100 premières pages d'un roman, j'allais dire d'un roman anglais classique, qui se coule dans les standards de la littérature romanesque anglaise, très psychologique, très voilà. Et effectivement, il y a un moment, on est saisi d'effroi parce qu'il y a une hypothèse qu'on commence à voir germer au fond du cerveau du lecteur et dont on se rend compte qu'elle est la bonne. Oui. Mais il y a une très grande. C'est pas un hasard s'il a eu le prix Nobel.
C'est très
bien distillé au fil du récit. Et cette hypothèse folle, progressivement, elle prend cher. Quoi.
Et c'est particulièrement bien construit parce que finalement, en plus, au terme de ce roman, on se retrouve en tant que lecteur assimilé au regard de l'autre, c'est-à-dire au regard de la société qui a construit et qui a produit ces clones. Donc on se retrouve dans une double position de porte-à-faux, d'une certaine façon. On se retrouve du côté de la norme sociale qui a créé ces individus pour en faire des pièces détachées. Ce qui est d'autant plus glaçant, bien entendu, si on a un petit peu d'humanité au fond de nous.
On reviendra sur tout cet aspect après la pause musicale. On va écouter Nightbird, Petit Monstre, par Fishback.
vous êtes toujours sur Canal B, à l'instant Fishback avec le titre Nightbird, Petit Monstre. Et aujourd'hui dans Chercheur en Ville, nous recevons Hélène Machinal pour parler de la figure du monstre dans la littérature, au cinéma et dans les séries et de ce qu'elle veut bien dire de l'être humain. En première partie d'émission, nous avons tenté de définir le monstre littéraire à travers le regard porté par l'être humain sur celui-ci, avec une évolution du caractère monstrueux du corps vers l'esprit. Le processus de création a lui aussi évolué, d'abord lié à la figure du savant fou qui sera plus tard dépassé par une science devenue folle. Un arrêt par l'époque du 19e siècle permet d'observer que le monstre, hors de la fiction, a également été désigné dans la vie réelle, dans un contexte de colonisation par les Européens. À présent, intéressons-nous aux monstres de notre époque. Ils ont des processeurs à la place du cerveau et ils révèlent sans doute de nouvelles peurs et questionnent le devenir de l'humain. Pour en parler, Hélène Machinal, professeure en langue et littérature anglaise et anglo-saxonne à l'Université de Bretagne Occidentale. Elle répond aux questions de Colette David et Christian Lebar, tout de suite dans la deuxième partie de Chercheurs en Ville.
Hélène Machinal, c'est quoi aujourd'hui la figure du monstre ? C'est le tueur en série, c'est le pédophile, c'est le dictateur, c'est le terroriste, c'est le mangeur de viande ?
Alors, dans la fiction contemporaine et pour la partie série télévisée en particulier, le monstre est devenu souvent ce qu'on a appelé donc des hommes tourmentés ou des nouveaux méchants, c'est-à-dire en fait des figures de la normalité. Donc des monstres qui ont une apparence tout à fait banale, tout à fait normale, tout à fait
c'est
normative.
Le voisin de palier, voilà, c'est le collègue de travail.
Voilà, c'est ça, c'est la personne qui vous ressemble à vous ou à moi, dont on ne peut absolument pas repérer la monstruosité. Et qui du coup déclenche encore plus d'effroi, puisqu'on voit sous une apparence d'identité et de normalité surgir une altérité qu'on n'avait absolument pas anticipée. Donc à la période contemporaine, on voit beaucoup, oui, de ce type de choses.
Ce qui renvoie aussi à l'histoire longue, par exemple, de l'antisémitisme, de l'anticommunisme, qui était quand même très, très adossé à la croyance selon laquelle nos ennemis sont d'autant plus redoutables qu'ils sont en apparence comme nous
oui.
et parmi nous.
Oui, et déjà à l'intérieur.
Oui,
tout à fait.
Je pense à la série Les Envahisseurs, par exemple, qui a baigné l'enfance des gens de ma génération, où on voyait effectivement cet effroi lié au caractère semblable.
Oui, absolument. C'est-à-dire que plus le monstre est semblable à soi, plus le potentiel effroyable est important. Donc on trouve ça beaucoup dans les séries contemporaines, effectivement. Plus spécifiquement avec des personnages de tueurs en série, comme on a évoqué tout à l'heure, qui ont une apparence tout à fait normale ou qui exercent par ailleurs une profession qui, en général, justement, est censée lutter contre la monstruosité. Je pense à Dexter, là, par exemple. C'est un petit coup de génie, je pense, d'avoir pensé à cette dimension-là.
Mais la monstruosité n'est plus que morale, alors, à ce moment-là.
Oui, effectivement. Elle ne relève plus de l'apparence physique.
Que dans Les Envahisseurs, il y avait une histoire de petits doigts qui ne pouvaient pas se plier, là, qui était quand même en dernière instance
le signe.
Tout à fait, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme dans ce qu'on pourrait évoquer effectivement le film Blade Runner tiré de Philip K. Dick avec le personnage de Rachel, qui est un personnage donc en fait d'androïde, mais qui ne connaît pas sa nature technologique ou biotechnologique. Et qui va la découvrir justement au cours du film. Donc là, on est déjà, mais bon, d'une certaine façon, en science-fiction, Philip K. Dick a tout fait avant tout le monde. Mais on est déjà dans l'idée qu'il n'y a pas forcément de distinction entre identité et altérité, et surtout que la créature qu'on va définir comme monstrueuse n'a pas conscience de sa propre monstruosité. Et se pense, parce qu'on l'a poussé à penser ainsi, hein, comme un être qui relève de la normalité et de l'identité.
Ce qui fait que chacun d'entre nous peut se dire « je suis peut-être un monstre et je ne le sais pas ».
Absolument, absolument, tout à fait.
Oui,
tout à fait. Tout à fait.
Infini. Quels effets sur la fiction et la fiction monstrueuse ont eu et l'informatique et les biotechnologies ? Parce que là, on est passé carrément à autre chose.
En fait, c'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut établir une forme de correspondance ou d'établir un pont entre le 19e et la période contemporaine de ce point de vue-là, puisqu'on est avec ces deux périodes dans des périodes de révolution scientifique et donc épistémologique, et donc la façon dont on se représente le monde et dont on se représente l'humain se transforme et évolue potentiellement du fait des progrès scientifiques. Donc on a eu la révolution darwinienne au 19e et donc la théorie sur l'origine des espèces qui a complètement bouleversé la perception que l'homme avait de lui-même et de son environnement. Et à la période contemporaine, on a eu donc après dans les années 60-70, on a la mise en place de ce qu'on appelle parfois la troisième révolution industrielle, avec d'une part donc les évolutions du côté des biotechnologies et d'autre part du côté des technologies du numérique. Et ça a donné effectivement naissance à toute une catégorie de nouveaux monstres, on pourrait dire, qui vont des robots aux androïdes, en passant par les cyborgs, clones et autres créations potentiellement monstrueuses, donc issues de la science.
Nous tenons à rappeler à celles et ceux qui sont propriétaires de Hubo de ne pas télécharger n'importe quoi de n'importe quel poste.
Vous nous achetez, vous croyez nous posséder, mais vous vous trompez. C'est nous qui vous possédons, c'est nous qui vous observons, c'est vous qui nous ressemblez.
Bande-annonce de la saison 2 de Real Humans, 100% humain, une série de science-fiction suédoise lancée en 2012 où les androïdes, appelés Hubo, ont investi les maisons et les entreprises avec une question: peuvent-ils développer une conscience propre ?
Avant de passer aux robots, etc., vous parliez tout à l'heure de la créature de Frankenstein faite à partir de morceaux de cadavres. Actuellement, les progrès de la médecine ont permis, par exemple, des greffes d'organes très importantes qui sauvent des gens, etc. À quel moment ceux qui étaient inouïs, voire monstrueux, devient une norme et un bénéfice pour l'humain?
C'est difficile de répondre à cette question-là, parce que ce sont souvent des phénomènes assez fluctuants, qui se produisent évidemment pas du jour au lendemain, et puis qui dépendent aussi de la personne qui va établir un jugement sur ces questions-là, et de quel point de vue. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les biotechnologies permettent effectivement d'apporter... représente certaines formes de thérapie ou de permettre de régler certaines difficultés d'ordre pathologique. Et là, personne ne va aller parler de monstruosité quand effectivement il s'agit de greffe d'organes, par exemple.
Sauf récemment, quand il y a eu les tentatives de greffe de la face, d'un visage. Toutes les questions psychologiques, éthiques, morales que ça a soulevé, ça c'était relativement récent, c'était il y a deux ans.
Oui, oui, oui. Oui, parce que là on touche au visage.
Voilà.
Donc le visage, je ne suis pas philosophe, mais il n'y a pas besoin d'être philosophe pour le savoir, hein. Le visage c'est toujours en lien avec l'identité. Mmh. Donc ce qui définit l'être. D'une personne. Donc du coup, je pense qu'effectivement, quand on touche à ce type de questionnement, on peut voir ressurgir des questionnements qui sont souvent liés au monstrueux, parce que le monstrueux traite de l'identité. Mais je ne sais pas si on a réellement parlé de monstrueux quand on s'est interrogé sur ces questions de chirurgie faciale.
Non.
Je ne pense pas que la monstruosité ait été évoquée. En revanche, ça suscite des questionnements éthiques et des questionnements qui relèvent de l'existentiel et de l'ontologique, c'est-à-dire de la façon dont l'homme se voit lui-même.
Et on voit bien, à partir du moment où effectivement les organes apparaissent interchangeables, etc., peuvent circuler d'un individu à d'autre, que le refuge ultime, c'est le cerveau, c'est le visage, c'est la tête, quoi.
Ouais. Hein.
Donc
ouais.
c'est là où effectivement on ne peut plus jouer. C'est là où l'individu se réfugie en quelque sorte.
D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans les séries contemporaines, on voit beaucoup de déclinaisons de corps post-humains. Donc de corps modifiés par la technologie d'une façon ou d'une autre. En revanche, il y a très peu d'exemples dans la fiction de réelle émergence de ce qu'on pourrait appeler une subjectivité numérique, c'est-à-dire complètement désincarnée. Une subjectivité qui ne serait plus justement qu'une intelligence artificielle, mais sans aucun ancrage dans une forme de matérialité, dans une forme de corps, mais même si c'est une barrette informatique, vous voyez. Mais ça reste quand même un ancrage dans la matérialité. Alors que des corps post-humains, des corps d'androïdes, des corps de cyborgs, la fiction contemporaine en pullule, enfin dans toutes les séries de science-fiction contemporaine, de Dark Matter, The Expanse, Westworld, on voit des corps d'androïdes qui relèvent du monstrueux par certaines facettes justement. Enfin, je pense dans Westworld en particulier, dans la saison 1, à la scène où l'un des personnages révèle, en lui ouvrant le ventre, les entrailles mécaniques d'une androïde que par ailleurs, depuis le début de la série, on a petit à petit, par empathie, assimilé à une créature humaine. Et du coup, cette scène touche effectivement de façon très spécifique les spectatrices et les spectateurs, parce que d'un seul coup, on voit ces entrailles mécaniques. Et là, on a du coup une exposition de l'hybridité de la créature qui paraît totalement humaine comme vous et moi, donc qui relève de l'identité, mais dont les entrailles révèlent qu'elle est en fait un être mécanique.
Il y a pas mal de films où les cyborgs sont sympathiques et les humains antipathiques. Enfin,
oui, bien sûr.
Ça, c'est maintenant devenu. Voilà, on joue avec les identités, on distribue le bien et le mal, ou le sympathique et l'antipathique de façon maintenant très, très aléatoire, et on fait exprès de renverser les schèmes traditionnels.
Oui, oui, oui. Et ça, c'est vrai que je reviens souvent à ce roman fondateur, mais c'était déjà le cas chez Philip K. Dick dans le livre dont se sont inspirés les films ensuite, où finalement le personnage du détective de
Blade Runner,
Blade Runner, enfin Do Androids Dream of Electric Sheep en anglais au départ, mais dans ce film là le personnage du détective et du chasseur de réplicants n'est pas un personnage sympathique.
Il y a eu une évasion d'une colonie de l'espace il y a 2 semaines, 6 réplicants, 3 mâles, 3 femelles. Ils ont assassiné 23 personnes et volé une navette. Il y a 3 nuits, ils ont essayé de pénétrer à la Tyrell Corporation. Qu'est-ce qu'ils cherchent à la Tyrell Corporation? Toi de me le dire, mon vieux, c'est pour ça que je te paie.
Première version de Blade Runner sortie en salle en 1982, à la réalisation Ridley Scott, et Harrison Ford campe un ancien policier qui traque des androïdes nommés réplicants.
Et effectivement, ce sont les réplicants, ce sont les aliens, ce sont les créatures autres qui essayent de se défendre et de survivre dans un univers qui fait tout pour les éliminer. Donc effectivement, les figures de l'altérité dans les fictions les plus récentes sont aussi souvent, d'un point de vue politique, des personnages qui revendiquent une forme de libération, d'émancipation et de reconnaissance.
Ce qui peut aussi s'analyser comme, je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire, parce que ce mot m'effraie toujours un peu, mais le post-humanisme, c'est aussi ça, de dire, voilà, l'humain n'est plus le centre du monde, et y compris d'un point de vue moral, c'est-à-dire mettre l'humain au centre de la création comme il a été l'habitude au XVIe siècle, ça peut faire question. Enfin, c'est aussi la question de la souffrance animale, etc.
Oui, c'est l'anthropocentrisme en fait, fondamental, qui est là depuis des siècles, qui est remis en cause. Moi, je ne sais pas si je parlerai de post-humanisme, parce que ça nous entraîne aussi vers des débats plus philosophiques qui sont assez complexes. Mais c'est sûr que dans les représentations dans la fiction du post-humain, donc de devenir de l'humain, il y a toute cette rhétorique-là, toute cette dynamique de réflexion-là qui est présente. Oui, absolument. Ouais.
Je pensais au roman de Vercors, alors je ne sais pas, pas très connu, qui s'appelle Les Animaux Dénaturés, donc Vercors, c'est l'auteur du Silence de la mer, donc c'est un vieux texte qui doit être des années d'après-guerre, où voilà, il raconte comment des savants sont confrontés à une espèce intermédiaire entre l'homme et le singe, et ils sont très embêtés à trouver une définition de ce qui définit l'être humain, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un critère qui permette, et ils ne savent pas quoi faire des créatures qu'ils ont découvert.
Oui, c'est un roman que j'ai lu, mais il y a très longtemps, donc je m'en souviens plus très très bien. Mais c'est symptomatique aussi d'une évolution qu'on voit apparaître au cours du XXe siècle, où effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de la figure individuelle du savant fou, telle qu'on pouvait la voir avec Frankenstein chez Mary Shelley, à ce que ma collègue Hélène Després qualifierait de la science folle. C'est-à-dire que c'est plus un individu savant qui va créer ou être à l'origine de la création d'un monstre quel qu'il soit, c'est les dérives de la science en tant qu'entité beaucoup plus globale, et en particulier une science qui est récupérée par des intérêts économiques, militaires, politiques, qui est représentée comme la menace. Dans beaucoup de fictions contemporaines, on voit apparaître ce phénomène-là.
Oui, alors dire ça, c'est aussi suggérer que la fabrique des monstres, elle renvoie aussi à des logiques qui ont évolué, parce que pendant très longtemps, enfin, dans la littérature traditionnelle, la fabrique du... Enfin, c'est souvent l'humain qui, par vanité scientifique, par exemple, crée la créature monstrueuse, alors qu'aujourd'hui, on a tendance à considérer qu'il n'y a pas besoin de se forcer. C'est-à-dire la monstruosité, elle est assez spontanément en nous et elle est presque une des dimensions de la condition humaine. En tout cas, elle est un potentiel humain qui ne demande qu'à se réaliser.
Oui, et puis je dirais peut-être que ce qui est nouveau à la période contemporaine, c'est ce qu'on a appelé la production du vivant ou la fabrique du vivant, qui est présentée aussi comme une monstruosité. C'est-à-dire qu'on trouve dans beaucoup de films et dans beaucoup de séries contemporaines, on retrouve des représentations qui, d'une certaine façon d'ailleurs, pourraient être liées à Le meilleur des mondes de Huxley, c'est-à-dire à la production d'êtres humains pour des visées de contrôle de la société, de contrôle politique de la société. Donc on va créer des individus qui rentrent dans des catégories et dans des cases, à qui on va assigner en fait une tâche spécifique, hein, comme dans le roman de Huxley. Et on retrouve ça beaucoup à la période contemporaine, dans les séries en particulier, où l'effroi et la dimension monstrueuse relèvent plutôt d'une visée sociétale, hein, qui cherche à produire des individus pour les assujettir d'une façon ou d'une autre aux besoins, des besoins sociétaux, politiques, économiques. Et là, on retrouve donc des individus génétiquement modifiés, produits par la science, des clones, etc. Enfin, ce type de personnages.
Qu'est-ce que vous voyez apparaître d'autre dans les récentes séries ou livres?
Ben, les autres comme enjeux qu'on voit apparaître beaucoup dans les séries contemporaines qui traitent aussi indirectement du monstrueux, c'est toutes les représentations du virtuel, des espaces virtuels qui sont de plus en plus aussi développés dans des séries récentes comme Altered Carbon par exemple, qui reprend ces thématiques-là, ou Dark Matter, où on voit aussi une forme d'exploration d'univers virtuel en lien avec les progrès contemporains du numérique.
Les avatars alors?
Par exemple. Ouais. Oui, par exemple des avatars ou des espaces virtuels qui deviennent des espaces de torture, par exemple, où les personnages donc sont soumis à certains types de traitements. Et ce qui est souvent interrogé, c'est l'absence de la disparition de la distinction entre l'actuel et le virtuel. Donc la mise en place de différents types d'interfaçage entre l'humain et le numérique qui brouille la frontière entre ce qui est actuel et ce qui est virtuel, et qui donc pose aussi encore des questions de brouillage de frontières et de transgression des frontières que pose aussi le monstre.
Vous allez continuer à travailler sur ces thèmes-là?
Sur le monstre, non, mais sur les devenirs de l'humain et les figures de la post-humanité, oui, effectivement.
On
avait déjà proposé un ouvrage avec Hélène Després sur le post-humain il y a quelques années aux presses universitaires de Rennes.
En 2014.
Voilà, en
post-humain,
2014.
Post-humain, frontières, évolution, hybridité,
voilà.
C'est ça.
Et normalement, en 2019, doit sortir dans la même collection un second ouvrage qui, bon, le titre n'est pas encore totalement défini, mais qui devrait s'intituler Post-humain et subjectivité numérique, et qui, donc là, s'intéresse plus que dans le premier ouvrage, on s'intéressait plus à la question des représentations du corps. Et là, on va plus se pencher donc, du côté s'intéresser davantage aux représentations possibles d'une subjectivité ou d'un esprit désincarné, plutôt que d'un corps. Bon, selon le bon vieux dualisme cartésien entre le corps et l'esprit qu'on voit réapparaître jusque dans ces fictions-là, oui.
Christian.
Alors j'avais une dernière question. Les monstres font peur, mais il y a quand même, Colette disait ça au début de l'émission, il y a des monstres gentils. Je suis par exemple frappé par la présence des monstres dans la littérature pour enfants,
oui.
Voire pour tout petit.
Oui, alors ça c'est un phénomène aussi relativement récent, je pense, hein, et qui n'est pas inintéressant parce que je pense que certains auteurs jeunesse se sont rendus compte que ces figures de l'altérité-là pouvaient aussi aider de façon constructive et positive à construire une identité chez l'enfant. Mais pas en stigmatisant l'altérité, en montrant que justement l'altérité...
Mais c'est
certaine...
quoi.
Oui, c'est l'altérité ouais. est une... C'est très bien, je pense, de montrer dès le départ que l'altérité est aussi une catégorie construite. Et c'est un peu ce que font ces ouvrages de littérature jeunesse. J'en pense aussi en particulier à certains qui présentent les grands méchants loups comme des créatures abandonnées, malheureuses et mal comprises. réalisme. Mais c'est intéressant de sortir des schémas.
On renverse les
schémas normatifs qu'on avait l'habitude d'avoir avec les gentils petits cochons et les grands méchants loups. Donc c'est pas inintéressant de penser des renversements en amont en termes d'âge des publics, de ce qu'on pourrait a priori anticiper, quoi.
Très bien, ainsi s'achève notre émission. Hélène Machinel, merci. Je rappelle que vous avez publié l'an dernier aux Presses universitaires de Rennes avec Jean-François Chassé et Myriam Maraj-Gouraud le livre Signature du monstre, donc au pur 23 €. Merci à Christian Lebar et merci à notre réalisatrice Lucie Louapre. À bientôt dans un mois pour notre émission de Chercheurs en ville.